je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, puis somme, bonjour, le mécher gros, si orlep, le fneirm sendr, la judaïka. J'espère que vous êtes en très grande forme. Sinon, avec mon invité, nous avons un remède ancestral qui procure de la lumière dans le dedans de soi. C'est pas beau, ça? Mais de quoi veut-il papoter le Müller? Opfort und tetrinke quelle? J'ai fait une place à un arbre au tronc noueux, un arbre millénaire qui symbolise l'amitié, la réconciliation, la guérison. C'est aussi le symbole de la paix. Et nous avons grand besoin de la paix en ce moment. Alors j'ai invité une belle personne qui connaît l'arbre, son fruit. Salut Luc Leichmann, ça fait plaisir de te retrouver. Surtout derrière nos micros.
Oui, salut André, quel bonheur d'être là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus croisés. Et là, c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler un peu de cet
de ce
arbre
que tu connais.
Et de cet cette
arbre.
Magie.
Ouais. Alors, on parle de cet arbre qui est un arbre magnifique. Et on peut s'adosser à cet arbre et rêver quand on est dos à cet arbre, à ce bel arbre, cet olivier.
Oui, tout à fait. C'est un arbre qui est propice à la rêverie, à la paix, comme tu l'as si justement dit. Et lorsqu'on est adossé dans ces oliveraies, loin du vrai monde, comme j'aime appeler ça, c'est un certain moment de recueillement qui a une certaine magie en soi.
En recueillement, on peut aussi dire que c'est l'arbre palabre, à l'ombre duquel on peut s'exprimer.
Oui, c'est effectivement un arbre à laquelle on peut s'adosser, qu'on peut rêver, mais également qu'on peut réfléchir, qu'on peut avancer sur les sujets de la vie et sur les sujets du travail.
C'est ce que tu fais de temps en temps?
C'est ce qui m'arrive effectivement de temps à autre dans les oliveraies au sud de la France ou autour du bassin méditerranéen de prendre juste simplement un instant.
Et en fait, c'est, on peut dire que c'est un des plus vieils arbres de la planète, ça? Ou je me trompe?
C'est certainement le plus vieil arbre de la planète connu et reconnu en tant que tel.
Et il peut être âgé, il peut avoir plus de 1000 ans, je crois.
Ah, il peut avoir beaucoup plus de 1000 ans, et c'est là, on les reconnaît grâce au tronc qui est noueux, généralement.
C'est incroyable, c'est une vraie œuvre d'art, c'est une sculpture, en fait.
C'est une sculpture qui n'est pas faite par l'homme.
Voilà. Ouais, c'est vrai. Et alors, on parle à l'instant le plus vieil arbre, mais il y a aussi un arbre tout près d'ici, qui est Place de la République, qui est le Ginkgo biloba, qui est aussi un arbre qui est très ancien et qui vieillit autant que l'olivier, je pense.
Oui, il doit y avoir des arbres, effectivement, qui sont millénaires, mais l'olivier, qui, comme j'aime appeler, qui vit en groupe.
C'est... Ah bon, ils se donnent la main.
Ils se donnent la main, ils se donnent les racines, oui.
Et ils se parlent, tu
crois ? Oh, je suis sûr qu'il y a une forme de communication entre eux, oui.
Ouais, ça, je crois aussi. Il y a un bouquin un Allemand qui a écrit un bouquin sur un livre où il parle que de ça. La communication de l'arbre avec tout ce qu'il a besoin, des champignons, de l'herbe et tout ça pour grandir et pour vieillir. C'est vrai que c'est beau un arbre. Moi aussi, c'est un moment où je rêve quand je touche un arbre, le tronc, et on communique. C'est hyper joli, c'est hyper beau, quoi. Alors, tu visites souvent des parcelles des olivettes ou des oliveraies pour l'oléiculture, c'est dur à dire ce mot. Hein.
Oui, c'est pour l'oléiculture, oui. Donc, déjà, à travers mon métier, c'est à la recherche toujours de cette fameuse arbre, de cette fameuse oliveraie, qui se doit d'avoir un travail, d'être d'abord belle, puisque si elle est belle, le fruit ne peut qu'être beau.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre doit être une bonne terre? C'est ça que tu veux dire, belle?
C'est-à-dire que les arbres doivent être alignés pour qu'ils puissent faire les premiers barrages au vent, par exemple. Il faut qu'il y ait un certain climat. Il faut qu'il y ait de l'espace entre les arbres. Minimum une dizaine de mètres entre chaque arbre. Oui,
ouais.
C'est là où le fruit devient beau et juteux, d'ailleurs. Hein.
Et la plus grande oliveraie, j'ai dit ça tout à l'heure, tu m'en as parlé, se trouve dans le nord de l'Afrique, en Tunisie?
Oui, alors il y a de très grands espaces dans le nord de l'Afrique, dans le sud de la Tunisie, où les terrains sont immense et...
À perte de vue, veux dire qu'il y a des, des milliers d'oliviers.
À perte de vue, mais bien, bien plus grande que les pays espagnols qui est connu, ou plutôt la Grèce, où on a l'habitude d'aller en vacances et de visiter les oliviers. C'est vrai qu'en Tunisie, dans le sud
ils
de la
en
Tunisie...
Ils en ont encore plus qu'en Grèce.
C'est encore plus grand.
Plus grand.
Plus grand, plus grand.
Les arbres sont plus grands ou l'espace?
L'espace est plus grand, les arbres sont plus vieux déjà, et les parcelles sont beaucoup plus espacées. Par exemple, dans une oliveraie visitée il n'y a pas trop longtemps, les arbres sont espacés de 12 mètres, d'un espace à l'autre, 12 mètres. Donc l'arbre a vraiment le pouvoir de s'exprimer. Et ils sont vraiment rangés, mais comme
des soldats.
Comme des soldats. Ah, ouais. Donc, on a les deux, trois premiers arbres qui vont faire barrage au vent pour que les autres arbres puissent vieillir de façon vraiment homogène et très, 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 très doucement.
Et alors, avec ce réchauffement climatique, je me demande si en Alsace, on aura un jour des parcelles avec des oliviers, comme en Corse ou comme en Tunisie.
Ah, la fameuse question, effectivement, qu'on me pose souvent, André. Donc oui, on pourrait s'imaginer planter des oliviers en Alsace. C'est un exercice qu'on a essayé de faire. Alors, l'olive va effectivement fleurir sur l'arbre, mais malheureusement, la durée du soleil, alors la chaleur, l'intensité de la chaleur est là pour faire pousser. Mais pour mûrir, il manque encore 4-5 mois de chaleur. Oui.
Oh, ça viendra peut-être, parce qu'avec tout ce qu'on fait, là, le réchauffement climatique, on se dit qu'un jour, en Alsace, on pourra peut-être même trouver des ananas et des bananes et des olives.
Et pourquoi pas?
Et oui, pourquoi pas?
Et pourquoi
pas? Tu as déjà songé à ça, à mettre des oliviers dans ton jardin?
J'ai déjà songé à mettre des oliviers. Pour l'instant, ils ne sont que décoratifs, mais peut-être qu'un jour. Mais il faudra vraiment encore attendre longtemps.
Alors, Luc, tu en as fait ton métier, hein, de cette olive et du jus, en fait, de ces olives, du parfum. Alors, comment on appelle ton métier? C'est un métier qui s'exerce avec le nez, le goût. Et ce métier s'appelle oléicologue.
L'oléicologue, oui.
C'est joli comme mot, c'est dur à dire. Hein.
Alors, dans le métier de l'olive, vous avez l'oléiculteur. Donc, l'oléiculteur, c'est la personne qui va soigner l'olivier, qui va travailler l'arbre, qui va écouter l'arbre. Hein, on en parlait en préambule.
Écouter l'arbre.
Puisque l'arbre s'exprime.
Mais il te parle, toi.
Moi, il ne me parle pas parce que je suis oléicologue. Donc, moi, c'est plutôt la récolte du fruit et la presse du fruit pour en extraire cette fameuse huile.
Et alors, ça donne beaucoup d'olives, un arbre qui est sain, qui grandit dans un beau paysage, qui a une bonne terre, des belles racines. Ça donne combien d'olives, par exemple?
Alors, tout dépend. On va partir sur une règle simple qui est à peu près 8 kilos pour un litre. Là, on va avoir une huile d'olive de très haute qualité.
D'accord.
On a des spécificités, comme je reviens dans ce magnifique pays qui est la Tunisie, où nous faisons ce qu'on appelle du pur jus. C'est-à-dire que nous allons presser pas plus de 60% de l'olive.
C'est-à-dire que tu presses l'olivier avec un pressoir.
Avec un pressoir,
ça donne 100% de jus.
Ça donne, alors nous, on va s'arrêter à 60%.
Pourquoi?
Comme ça, nous n'avons pas de peau, nous n'avons pas de noyau, nous avons effectivement une...
Le meilleur du fruit, tu veux dire.
Le meilleur du fruit, très riche en polyphénol, donc très très bon pour la santé. Et nous pouvons faire cela parce que le tourteau va donc être réintroduit dans la filière animale pour que l'animal soit aussi et à manger de façon saine.
Ah d'accord. Mais les autres 40%, donc c'est pour les animaux, c'est ce que je comprends.
C'est exactement ça.
D'accord, mais là aussi, il y a beaucoup d'énergie dedans, il y a beaucoup de choses encore dans ces
40%. Oui, il faut... Alors effectivement, l'huile d'olive, c'est l'huile la plus forte en goût de toutes les huiles. Hein.
Ouais.
On a... L'huile d'olive, c'est la plus riche en plusieurs vitamines. Alors, on ne va pas tout énumérer, je risquerais d'en oublier. Mais ce fameux polyphénol qui est bon pour l'ensemble du corps, on retrouve ça dans deux huiles, dans l'huile de colza et dans l'huile d'olive. Ce sont vraiment deux huiles très, très complémentaires.
Ton métier, en fait, c'est la science des huiles.
C'est ça, c'est exactement.
Mais pas l'huile de vidange, pardon, excuse-moi.
Non, ce n'est pas tout à fait le même domaine. C'est mon métier, mon métier est de commencer à définir une date de récolte.
Ah, d'accord.
D'après la variété.
Mais comment tu sais ça? Comment tu sais? C'est toujours en janvier, non, qu'on récolte?
Non, tout dépend déjà du climat, tout dépend du résultat qu'on va avoir.
Ah,
on peut avoir des fruités verts. Donc, des fruités verts, ce sont des olives qui sont récoltées un mois avant la date de maturation. On peut avoir des fruités noirs, on peut dénoyauter une olive. On a, dans certaines de nos huiles, l'huile d'olive est dénoyautée à 7%. Donc là, vous n'avez aucune ardence et aucune amertume. Vous avez toute la douceur de l'huile sans le goût du noyau.
Ah, t'es intéressable, hein, tu connais tout, tu sais tout sur tout.
On essaye de comprendre le fruit pour essayer d'en tirer le meilleur.
Ah, c'est génial. Écoute, on va écouter un peu de musiquette parce que tu m'as dit que tu aimais beaucoup la chanson française. On va écouter un petit morceau qui va vraiment te plaire. Alors, tu aimes beaucoup Goldman, hein, tu l'écoutes souvent dans la voiture, tu me disais.
Ah ben, sous une oliveraie, un peu de Jean-Jacques avec nous, c'est magique.
C'est excellent. Alors, il y a différentes sortes d'olives, il y a des vertes et des noires. Pourquoi elles deviennent noires? Pourquoi elles sont vertes?
Ah non, c'est pas différentes sortes, c'est la même olive qui devient verte. Et en mûrissant, elle devient rouge, c'est là où elle est... On ne peut pas la consommer et si on la laisse mûrir, elle va noircir.
Ah, elles sont toutes vertes au départ?
Elles sont toutes vertes au départ.
Et après, elles prennent beaucoup de soleil et elles bronzent, quoi.
Voilà, après, tout dépend du goût qu'on veut donner à l'huile. On va la récolter plus ou moins tard.
Ben justement, en parlant de goût, je vais apprendre quelque chose parce que tu as emmené une de tes bouteilles avec des petits godets et on va goûter cette huile d'olive.
Ah oui, je t'ai...
Déjà, tu m'en as mis une. Alors, celle-là, c'est une couleur... Doré, si je colle, dis, on peut dire. Hein.
Oui, alors,
c'est de l'or.
Regarde bien, là, on est donc dans la fruité verte. On l'a récoltée un peu plus tôt. Donc, on a la couleur jaune et la couleur... Attends, je vais goûter avec toi, André.
Alors, on dirait qu'il va se mettre un peu d'huile d'olive. C'est vrai que c'est joli comme tout, comme couleur. Elle est géniale.
C'est une belle couleur. Ah, ouais. Il y a pratiquement... Alors, elle n'a pas été filtrée. Tu sais, c'est un peu comme le vin.
Ah ouais.
Le vin, que tu filtres le vin, t'enlèves des bonnes choses et des mauvaises choses. Là, on n'a pas filtré. Et le nez.
Mais là, au nez, c'est, j'ai l'impression de sentir la Corse quand je suis en vacances en Corse.
Tu sens un peu ce gazon tondu, cette herbe fraîche. Il y a un peu de ça.
Ça sent hyper bon, quoi. Tu sens la terre, toi?
Ah, je sens vraiment l'herbe fraîche, la rosée qui se pose sur.
Et tu es un vrai poète, dis-moi, Luc.
C'est vrai?
Ah ouais, tu parles de poésie, et ça, j'adore, moi, la poésie.
L'olive, les millénaires, l'arbre noueux, tout ça, c'est le même univers.
Et toi, qu'est-ce que tu sens à part la terre, le côté?
Ah, moi, c'est vraiment ce côté herbacé. Je sens presque l'olive qui est accrochée à l'arbre. Alors, il faut savoir que l'olive, elle a une particularité. C'est le seul fruit qu'on ne peut pas manger.
Ah ouais?
Non, l'olive, tu récoltes de l'arbre, tu ne peux pas le manger.
Mais pour quelle raison?
Ah, parce qu'il faut soit il faut mettre en saumure pour en faire des olives d'apéritif, soit il faut le presser, mais tu ne peux pas, comme une pomme, arracher le fruit de l'arbre et le manger.
Ah oui, tu vois, tu m'apprends des choses.
Faut en faire quelque chose.
On peut le goûter alors?
Allez, on goûte, mais on goûte comme le vin. Bon. Alors, entre manger, on va pas la boire. D'accord?
D'accord, ouais.
On va la manger.
D'accord.
Tu connais la différence entre boire et manger?
Bah, évidemment, quand même.
C'est l'oxygène qu'on prend.
Moi qui étais dans le culinaire pendant 10 ans à la France 3, j'ai
donc,
goûté.
Donc, on va prendre et on va vraiment aérer.
Ok.
Tu sens la palette aromatique. Oh, voilà.
Wow.
Tu vois ce que tu viens de faire?
Waouh.
Ça, c'est le goût
ça
de l'olive.
Ça brûle dans la bouche.
Et c'est ce qu'on appelle l'ardence. Voilà. Là,
waouh.
Et ça, c'est ce qu'on appelle une vraie huile d'olive.
J'en ai des larmes aux yeux, dis donc. Ouais.
Wow. Tu vois? Et tu vois vraiment cette palette aromatique. T'as une attaque de bouche qui n'est pas très franche. Ah, et là, maintenant, t'as et tout...
Là, ça s'estompe un peu dans ma bouche, hein, maintenant.
Mais il y a quand même une belle longueur. Mmh. Alors, par contre, tu vas voir cette longueur en bouche. Tu vas voir ce goût de l'olive en bouche jusqu'au moment de la journée, tu vas boire un café. Et si tu bois pas de café, tu l'auras jusqu'au dîner.
C'est pas vrai. Ah oui, je sens les... C'est... Tout mon palais, en fait, j'ai un palais royal dans ma bouche, là, aujourd'hui.
C'est... Ça prend.
Ça prend, c'est incroyable.
Et j'attire ton attention sur une chose. Tu vois, t'as pas l'impression d'avoir du gras en bouche.
Ah non, c'est pas gras du tout.
Un petit peu sur les lèvres, comme un
ouais,
baume.
Ouais, ouais.
Mais absolument mais pas en bouche.
Et maintenant, ça fleurit. J'ai l'impression, il y a comme une fleur, enfin... Je sens des parfums comme ça dans ma bouche. Au début, c'était un peu agressif.
Oui.
Et là, il y a de la douceur, quoi, tu vois.
Bienvenue dans le monde des olives.
Et alors, cette olive, ce que tu m'as présenté, ce petit godet, ça, il faut le, ça, on boit, ça se cuit. Tu peux le mettre dans une casserole. Tu peux préparer une viande avec ça. Ou alors, c'est plus pour faire des salades ou.
Alors oui, c'est merci de ta question, André. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les huiles d'olive. Alors là, ce qu'on a, c'est la oléosalbo. Hein, ça, c'est le nom de la parcelle au sud de la Tunisie.
Ah, ça vient de là.
Ça vient de là.
C'est une parcelle qui t'appartient.
C'est une parcelle dont une partie. On a notre mot à dire dans la façon de cueillir, dans la façon de récolter, dans la façon de presser l'olive. Et l'alia, c'est la parcelle, entre guillemets, la plus belle, la mieux exposée, et qui est le nom de la maman du responsable de l'oliveraie.
Ah, c'est joli, ouais.
Voilà.
Et c'est le nom qui est marqué sur la bouteille ?
Voilà, c'est ça, c'est l'alia.
L'alia.
C'est le nom de la maman.
C'est un prénom qui veut dire quelque chose ?
Non. Ah, je ne peux pas te dire, je ne maîtrise pas assez la langue.
Ouais, c'est joli, l'alia, ça, c'est joli, ça. Ouais.
Et donc, effectivement, avec cette huile, donc c'est une monovariétale, c'est une seule variété d'olive, ce n'est pas un mélange, et donc avec un point de fusion très haut. Donc, comme tu l'as goûté, elle a un super goût, bien prononcé,
dans
bien
la bouche,
avec une belle longueur.
Ah oui.
Donc, tu peux l'utiliser sur ta salade, tu peux l'utiliser à froid, mais comme c'est une monovariétale, tu peux également la chauffer, la cuire, et c'est un vrai exauceur de goût.
Ah oui. Alors, j'ai une petite question à te poser, parce que bon, je sais que tu fréquentes les restaurants, tu vas souvent dans les restaurants, parce que c'est aussi partie de ta clientèle. Hein. Les chefs étoilés utilisent ton huile.
Et puis, on est gourmand.
Et oui. Et alors, je juste parler de l'autre côté du Rhin, quand je vais en Allemagne, il y a un truc assez extraordinaire. Quand tu t'installes à table, avant de choisir ton plat, ils te mettent de l'huile d'olive avec du gros sel, avec une petite fourchette comme ça, où tu mélanges ça avec l'huile et tu l'éponges et tu manges ça avec du pain. C'est juste extraordinaire. Pourquoi on ne fait pas ça chez nous à Strasbourg ou en France ?
Alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font plutôt en saison. Ah, c'est vrai, pour moi, on devrait les faire beaucoup
tout
plus,
le temps, tout le temps,
puisque c'est un vrai, pour l'apéritif, le but de l'apéritif est d'ouvrir l'appétit.
Ouvrir les sens aussi.
Voilà.
Et, là, et peut-être même les sens interdits.
Et même les sens interdits, tout dépend où on est.
Ah, c'est joliment dit, ouais.
Mais effectivement, en apéritif, vous prenez une fruitée verte. Alors, ce qu'on vient de goûter, c'est une fruitée noire, mais une fruitée verte, mais également une fruitée noire. Donc, ceux qu'on va récolter un peu plus tard, qui ont un peu moins de goût.
Ça veut dire fruitée noire, ça veut dire que c'est pas jaune, jaune comme ça?
Ah, si, la couleur.
Si, la couleur ne change pas.
La couleur ne change pas, mais c'est récolté plus tard. C'est récolté 2-3 mois après la date de maturité.
Et toi, tu connais la récolte. À quel moment il faut récolter? Parce que j'ai un souvenir, sur un Paris-Dakar, on faisait aussi des récoltes au Maroc ou ailleurs, et on faisait ça surtout en janvier.
Oui, alors encore une fois, la bizarrerie de l'olive qu'on consomme beaucoup en été, l'olive est un fruit d'hiver.
Ah, c'est un fruit d'hiver,
d'accord. C'est un fruit d'hiver, oui. Donc,
d'accord.
La récolte se fait là, actuellement. On est en train de récolter dans le sud de France. On est en train de récolter... On a presque fini la récolte.
Ah oui, ok. Et raconte-moi un peu comment ça se passe après la récolte. Bon, l'olive, il faut la débarrasser de ses feuilles. On la lave, on la broie. Comment ça se passe, ça ? Dis-moi.
Tout d'abord, on va récolter le fruit de l'arbre sans le blesser.
Mais on ne secoue pas comme les pommiers, non? Ça
secoue on
pas.
Secoue pas. Alors, on va secouer, si, mais on ne va pas secouer l'arbre parce qu'il est vieux, l'arbre, il est fragile. Donc, on va plutôt secouer les branches et pas le tronc.
Avec quoi? Avec des perches?
Avec des perches. Ouais. Et en dessous, on va mettre un filet qui ne touche pas le sol pour que l'olive ne touche pas le sol, pour que l'olive tombe délicatement dans un filet.
C'est comme un filet de pêcheur que vous mettez tout autour.
C'est comme un filet de pêcheur. C'est exactement ça.
Et là, ça tombe, c'est de l'or qui tombe là.
Et là, c'est le fruit qui tombe. Donc après, on va le prendre. Alors, dans notre cahier de charge, il faut que le fruit soit pressé au maximum, au grand maximum, 3 heures après la récolte.
Après la récolte, ouais.
C'est-à-dire que la première huile coule lorsque le dernier olivier, il y a encore le fruit sur l'arbre.
Ah ouais,
hein,
okay.
Faut vraiment voir ça d'accord. comme un travail.
Et alors c'est de la mécanique ça, il y a plus l'âne qui tourne avec qui tourne autour de la
non,
du pressoir.
Non, on va laisser ça au folklore et à l'histoire, mais aujourd'hui on a des c'est une vie sans fin où on arrive à gérer très 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 bien la température puisqu'on a on fait de la première mais unique pression à froid. Donc c'est pas une première pression à froid, c'est une première et seule pression à froid. C'est pas l'âne, puisque là, on ne maîtrise pas grand-chose. Ça peut rester de la meule de pierre, par contre, qui est propre, qui est nettoyée.
Mais je crois que dans le nord de l'Alsace, j'avais fait un tournage un jour sur un gars qui fait de l'huile de noix.
De noix.
Et il avait des grosses meules, comme ça, un truc qui datait de 1800. Je ne sais pas si tu le connais.
Oui, je connais
tu
très
le connais,
bien.
Ouais, tu le connais bien, mais en fait, c'était assez esthétique. Dans cet endroit, dans cette huilerie.
Oui, alors il faut bien remettre l'olivier dans sa situation géographique qui est le bassin méditerranéen, à vrai dire.
Ça, hein.
Et donc ce sont des grands halls. Et dans ces grands halls, donc, on va d'abord laver avec de l'eau l'olive. On va débarrasser de la feuille. On va laisser la queue hein, pour que l'olive ne s'imprègne pas trop d'eau, hein, parce qu'on veut vraiment garder l'huile. Et ensuite, on va passer sous une presse où coule le premier jus, donc qui n'est pas transparent, hein, qui est vert opaque.
Ah oui.
Et celui-là, on va le laisser décanter pour justement que les impuretés naturellement se séparent de l'huile.
Quels sont les grands pays producteurs d'huile d'olive ? Les Alsaciens ?
Oui, alors les Alsaciens, peut-être dans quelques décennies, mais pour l'heure, on est vraiment, c'est l'Espagne. L'Espagne qui est un très, très, pauvre, très, très grand et beau producteur. Alors attention, en Espagne, j'aime bien ce pays, il est souvent décrié, mais dans l'Espagne, on a effectivement les plus gros industriels, mais on a également les plus belles oliveraies. Il y a la Crète, hein, la Grèce, le Péloponnèse.
Ouais, c'est connu, ça.
C'est connu, tout le monde est en vacances, tout le monde voit ces oliviers centenaires, d'ailleurs.
En Corse, tu les vois aussi.
En Corse, alors il y a un très beau pays, souvent oublié, qui est le Portugal.
Ah ouais. Ah,
le Portugal, c'est le seul pays au monde où l'olivier peut pousser naturellement. Même l'olivier qui pousse,
d'accord.
C'est au Portugal.
D'accord.
Dans le sud du Portugal, il fait très chaud, la terre est propice. Et puis nous, on est assez...
Dans les Algaves, là, au bord de...
Oui.
Ouais, c'est joli là-bas. Mais il y a beaucoup d'orangers là-bas.
Ils
sont connus
d'agrumes.
Pour les oranges.
Il y a beaucoup d'agrumes.
Ouais,
oui.
Absolument.
Mais souvent, les agrumes se mêlent dans les olives.
Ah ouais, d'accord. Ils se parlent.
Et puis, il y a bien sûr le sud de France. Hein. Soyez un peu chauvin quand même.
Et alors, tu me disais à l'instant qu'effectivement, il y a des pays... Nous, on consomme beaucoup d'huile en Alsace. Beaucoup de ton huile.
Oui, on consomme effectivement. Alors, on a des huiles spécifiques qui sont soit pour la cuisson, soit pour assaisonner. Ah, moi, j'aime pas trop dire l'huile d'olive. J'aime bien qu'on le dise au pluriel, les huiles d'olive. Parce qu'on se doit d'avoir plusieurs variétés, plusieurs sortes. Et on fait d'ailleurs régulièrement des dégustations. Et quand on fait des dégustations, les gens viennent un peu en disant que, ils ne connaissent pas trop. Et quand ils dégustent un fruité vert, par exemple un fruité noir, même la personne la plus novice a une vraie différence et part avec 2-3 bouteilles. Et donc,
En fait, c'est un produit à la mode et on voit même à Strasbourg et dans les environs fleurir beaucoup de boutiques, des spécialistes de l'huile d'olive. Et je crois que toi et Alain Trottmann, là-haut, Monsieur Allélord, Monsieur de Senefman, vous avez plusieurs magasins, je crois, à Strasbourg.
Oui, elle a plusieurs magasins. On en a un nouveau à Strasbourg, Place Broglie.
T'étais au marché-gare avant?
Oui, on est parti du marché-gare cet été.
Pourquoi ils t'ont viré?
Ah non, ils m'ont pas viré, on a essayé, mais en fin de compte, non, pour dire toute la vérité, on a eu l'opportunité d'avoir notre magasin de 115 mètres carrés.
Et il est où ce magasin ?
10 Place Broglie, en plein milieu de la Place Broglie. On est ouvert tous les jours de lundi au samedi et on fait tous les jours des dégustations d'huile d'olive à des gens, personnes qui veulent juste comprendre les choses.
Et alors les autres magasins, les 3 autres magasins sont où ?
Donc on en a à Wissembourg, on est à Colmar, on est à Aubernais et bien sûr il y a le magasin de Mittesheim.
de Middelsheim chez Alain Tropin.
Voilà, qui est le magasin adossé à l'usine de fabrication moutarde. Oui.
D'ailleurs, il a sorti aussi une moutarde récemment de Strasbourg, je crois.
Oui, une vraie moutarde
alsacienne,
enfin, comme toutes les moutardes
ouais.
mais qui est piquante naturellement et qui est vraiment, vraiment très, très piquante, qui s'appelle la moutarde de Strasbourg et qui se doit d'être la nouvelle capitale de la moutarde en France.
De la moutarde. Tu veux qu'on écoute une petite musiquette pour reposer les oreilles ?
Oh, bah, grand plaisir.
Allez, on va écouter. Quelqu'un nous téléphone là. Allô ? Tu rêvais aussi un jour d'une autre terre ?
Oh, bah écoute, je pense qu'on est déjà sur une très très belle terre. Et
ouais, qu'il faut protéger, préserver. Parce qu'elle donne tellement de choses. Hein,
de très bonnes choses.
Surtout
oui.
De. Ouais. Alors dis-moi un petit peu tes. Pour faire une salade, par exemple, qu'est-ce qu'on y met ? On y met de l'huile d'olive, une très bonne huile d'olive, mais on ne met pas que du Melfort, hein, du vinaigre, on met autre chose aussi.
Non, alors moi je conseille avec l'huile d'olive qu'on vient de goûter, un vinaigre balsamique, mais alors pas un vinaigre balsamique traditionnel, un vinaigre balsamique blanc.
Donc, ça existe en blanc ?
Oui,
ah ouais ?
Il n'a pas vieilli en fin de compte dans du bois.
Ah, okay.
Nous, on en a qui vieillissent dans des fûts de grès ou des fûts de...
Et ça donne quoi comme goût alors ça, c'est comme l'autre, de couleur ou...
Non, alors déjà, il n'y a pas de sucre,
n'y
a pas de sucre à part le sucre résiduel du raisin, du moût de raisin. Et ça se marie très très bien avec l'huile d'olive, des fruités verts par exemple. Mais par contre, sans sel, sans poivre, on est vraiment dans quelque chose
d'explosif.
Qui est très apprécié par tout le monde.
Tout
le monde aime un vinaigre balsamique blanc, une vraie huile d'olive, point.
C'est quoi un peu ta salade préférée, toi ? Qu'est-ce que tu aimes cuisiner comme salade avec ton huile ?
J'ai les grands classiques. Hein. C'est comme moi, je prends une simple feuille de salade verte. Lorsque je mets une huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique...
Ah ouais.
Je suis assez fan de poivre, donc j'aime bien le petit clin d'œil de poivre, mais ça va s'arrêter là. Et là, souvent, on me demande des grands conseils de faire cette vinaigrette et c'est généralement gêné à dire que c'est juste le produit et absolument pas de talent.
En tout cas, Luc, j'étais très contente de passer un moment avec toi, de m'expliquer tout sur les huiles, c'était très intéressant. Je te remercie d'être venu, tu pourras revenir un jour parler de sport, parce que je vois que tu es un grand sportif, et on parlera de ça une autre fois quand tu reviendras.
Ben avec grand,
merci
grand
de ta venue, c'était sympa. Merci beaucoup. Générique de fin.
Voilà. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.